Votre émission sur RMC avec Iscox.
Is quoi ?
Iscox. Is qui ?
Iscox,
l'assureur des TPE et des indépendants.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Alors, à la cool, hein, pensez. Ça, c'est. Voilà. T'as pris quoi là? T'as pris un tortillard?
Il est en grève.
Non, c'est les retards normaux de la SNCF, tout simplement.
Pensez, on était tous assis.
Et lui, bien tranquille, en short, téléphone à la main.
Je suis un homme qui ne cache rien. Excusez-moi d'avoir une vessie. Peut-être que vous pissez dans une bouteille d'eau en dessous de votre siège, mais moi, j'étais aux toilettes.
Mais on pisse pas, monsieur.
On a combien de minutes de pause?
Là, on a eu plus de 4 minutes.
4 minutes, c'est plus une vessie, mon ami.
Je pense que c'est un éléphant.
Alors, dans ce cas-là,
vraiment,
te poser des questions. Hein.
Je suis là, c'est
Anne Testu, la communicante, Bruno Poncet, le cheminot, l'homme de Vierzon, Mehdi Guézard, le patron de PME. Voilà nos trois GG qui sont avec nous et surtout avec vous au 32-16 pour discuter, pour débattre, pour échanger jusqu'à midi. On évoquera ce village du Jura qui est excédé par les touristes. Le village compte 200 habitants et il passe à 400 000 visiteurs quand arrive l'été. C'est fou. Donc aujourd'hui, le surtourisme. Franchement, est-ce que c'est vraiment devenu un fléau et il faut le limiter ou pas? 32-16 pour en parler avec les GG. À 11h15, on évoquera ce centre aéré qui a été fermé à Marseille. Vous savez, après les vidéos où l'on voit les éducateurs punir les enfants, c'est une mère qui s'était plainte. D'ailleurs, tout au long de la semaine, il y a eu des plaintes et ça interroge sur le recrutement des animateurs dans les centres aérés. Est-ce qu'on a un problème avec ça? Oui ou non? Le Royaume-Uni, le Sun qui a mis à sa une les visages de quelques-uns des émeutiers qui ont été arrêtés et mis en prison. Au moins, le Sun, alors, n'a pas de pudeur. Est-ce que c'est dégueulasse? Est-ce qu'on doit faire la même chose en France aussi quand on a des émeutes, des choses atroces? Enfin, je ne sais pas. Venez en parler avec les grandes gueules. En attendant, on va évoquer Vienne et la tentative d'attentat contre les concerts de Taylor Swift. Les services de renseignement l'ont dit et répété depuis 24 heures, c'est un bain de sang qui a été évité. Du coup, du côté de la production de Taylor Swift, on a décidé d'annuler les trois concerts. Ça devait être hier au soir, ce soir, demain soir, au Ernst Happel Stadium. C'est quand même 170 000 personnes qui devaient venir voir le concert de Taylor Swift. On a évité le bain de sang avec ce jeune islamiste de 19 ans qui préparait un attentat suicide avec un complice de 17 ans, il l'avait dit, il l'avait écrit sur les réseaux sociaux, je voulais tuer le plus grand nombre de personnes. Malheureusement, nous en France, et je parle à côté de Bruno Poncet, qui était au Bataclan pour ceux qui ne le savent pas, malheureusement, on sait ce que c'est. On a en tête ce qui aurait pu se passer au Stade de France, on a en tête ce qui s'est passé aussi du côté de la promenade des Anglais. Sauf que là, ce qui interpelle, c'est l'âge. C'est 19 ans et 17 ans et les policiers des services de renseignement ont retrouvé ce qu'ils appellent, je les cite, hein, les services de renseignement, des plans très concrets et détaillés qui visaient à provoquer une tragédie d'ampleur identique à celle de Paris, Manchester et Moscou. Le principal suspect, celui qui avait tout fomenté, 19 ans, originaire de Macédoine du Nord, il avait fait allégeance à l'État islamique. L'autre, le petit camarade, 17 ans, chez qui potentiellement on a retrouvé des produits inflammables et autres. Il avait changé d'apparence, dit-il, de manière flagrante. Il s'était radicalisé. Il s'était adapté à la tenue de la propagande de l'État islamique. Il était d'origine turque ou croate. Ça doit être encore affiné par les services de renseignement. 19 et 17 ans, est-ce que ça vous effraie? C'est au 32-16 que vous venez en parler avec les GG. Bruno Poncet.
Déjà, sur ce qu'il voulait faire, c'est effroyable. Et on l'avait vu, c'est à peu près la même chose qui s'était faite à Manchester, où il y avait eu des morts dans une file d'attente pour un concert d'Ariana Grande. Là, ce qu'on voit là, c'est dingue. L'âge,
il y a eu 29 morts.
L'âge est inquiétant, mais malheureusement, enfin, moi perso, ça ne me surprend pas trop, parce que dans le box des accusés du procès des attentats de Paris, il y avait deux jeunes qui avaient 30 ans en 2021. Et donc, quand il y a eu les attentats, ils n'ont pas participé aux attentats réellement à Paris, mais ils faisaient partie de la même cellule. Ils avaient à peine plus de 20 ans, dont un qui était parti de chez ses parents, qui vient de Danemark ou Suède, je ne sais plus quel patelin de là-haut. Et en fait, lui, il est parti en Syrie, il avait 18-19 ans. Et d'ailleurs, il y a une vidéo, alors tout le monde la connaît, cette vidéo malheureusement, où on est en train ils sont en train de brûler un pilote d'avion de je ne sais plus quelle armée.
Égyptien, je crois.
Ouais, de quelle armée, dans une grille. Oui, et lui, Égyptien. Il est là avec une tenue des plus hauts gradés de l'armée de
l'État islamique. Donc, c'est et il avait donc 18 ans à peu
près. Ouais, 19 ans au moment de l'image. Donc tu vois, c'est pas.
Le même âge que celui qui a fait Allégeance et qui voulait perpétrer la tuerie
sur l'Allégeance. Par contre, là, c'est inquiétant. L'Allégeance, ça rappelle un peu l'attentat de Nice où le mec avait fait Allégeance la veille ou le matin même du truc. Et lui, il fait Allégeance, là, je crois, au mois de juillet. Donc ce qui fait que tu te retrouves maintenant avec là, des gens lâchés. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce qu'on a vécu nous en 2015. C'est-à-dire que des mecs qui préparent ça, qui sont envoyés de Syrie et tout. On est dans des mecs qui sont dans leur patelin. Qui sont attirés par ça pour des raisons alors religieuses rarement plutôt des raisons déjà de violence et de trucs comme ça parce que souvent la religion le mec par exemple de Nice il a jamais été réellement pratiquant de la religion tu vois donc en fait c'est pas religieux c'est vraiment des mecs qui sont dans l'ultra violence et fait des trucs de ouf comme on voit aux États-Unis avec des tueries de masse et en plus on se retrouve avec des mecs qui prêtent allégeance un mois avant et qui sont prêts à faire des trucs mais au-delà de l'humanisme l'humanité mais c'est un truc de fou en fait et malheureusement
j'ai dit que le pilote était égyptien il était jordanien
ouais, il est jordanien ça
et il a accusé d'être au sol des Israéliens voilà.
Et en fait tu vois tu te retrouves avec et là maintenant la peur aujourd'hui qui grandit c'est que la plupart de toutes les actions terroristes récentes viennent des pays de l'Est. Et là, on a un gamin qui vient de Macédoine, je crois. Et tu as d'autres qui viennent de pays de l'Est. Et aujourd'hui, malheureusement, la branche de Daesh la plus virulente, c'est celle qui aujourd'hui commence à faire des attentats en Europe, c'est celle qui est du.
L'État islamique au Khorasan.
Ouais,
c'est eux qui ont perpétré l'attentat à Moscou.
Moscou. Ouais. Et là, vraiment, ça devient inquiétant parce que là, tu te rends compte que le processus et le procès des marches. Par contre, ce qui est quand même rassurant, c'est qu'ils ont réussi à les attraper avant. Et qu'ils ont réussi surtout à déjouer ça avant qu'il se passe quoi que ce soit. Mais voilà.
Sur la base de renseignements, les services de renseignement autrichiens ont sûrement été aidés par les Américains parce que tout se passe sur les réseaux sociaux.
Voilà.
C'est ça qui est fou, quoi.
C'est dingue.
C'est qu'ils font allégeance sur les réseaux sociaux. Derrière, ils se montent la tête sur les réseaux sociaux.
On accuse souvent les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux servent aussi à identifier ce genre de personnes. Et heureusement.
Ouais, mais ils sont pas régulés, les réseaux sociaux.
Mais, hein,
ils sont pas régulés.
Non,
parce
mais
que...
ils sont irrégulables.
Ah, bon, ça, c'est moi, un j'ai sujet. Un vrai problème avec ça, parce que tu vois, par exemple, tous ceux qui faisaient partie de la cellule qui ont été jugés à Paris, en fait, ça part au départ, tout ce qui se passe en Syrie, mais ça part au départ d'un bar qui est tenu par le frère de Salah Abdeslam, où tous les soirs, ils reçoivent des vidéos, enfin, tous les jours, ils reçoivent des vidéos de celui qui, Abaoud, qui est en Syrie, qui envoie des vidéos où il traîne des cadavres avec son camion, où il massacre des gens,
exactement.
Et ils regardent ça sur Facebook. Et c'était Facebook, Facebook est un de leurs outils où ils ont élevé le plus de contacts. D'ailleurs, à un moment donné.
Propagande.
Pardon ?
Un outil de propagande.
Entre autres, mais en surtout un outil où ils pouvaient s'envoyer des messages et tout, tu vois. Et c'est quand même. Moi, je pense que la régulation des réseaux sociaux, à un moment donné, va faire comme ils pensaient un jour. Hein.
Mais là où Bruno a.
L'âge, ça te fait peur ? Ça t'effraie de
voir
l'âge ?
Ah oui, ben bien évidemment, mais en même temps, c'est à cet âge-là qu'ils sont les plus perméables et les plus influençables aussi. Voilà.
Plus débiles, surtout.
Mais là où Bruno a raison, et je renforce son propos, c'est qu'effectivement, l'islamisme qui vient des pays de l'Est. Il est terrible, il est terrifiant pour la simple et bonne raison, c'est que ce sont des convertis. Et les convertis, c'est bien pire que ceux qui sont, qui ont toujours été musulmans, après, qui auront dévié vers l'islamisme, etc. Parce que il faut bien faire cette nuance-là. Mais les convertis, ce sont les pires. Mmh. Ce sont les pires, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et pardonnez-moi cette expression, tous, mais les djihadistes ou les pseudo-djihadistes ou ceux qui veulent les djihadistes, etc., quand il y a des grands événements comme ça internationaux, sachant qu'ils ne peuvent rien faire sur les JO, tout apprenti djihadiste qui veut se respecter, voilà, il va aller chercher des événements comme ça, bien évidemment. Et je pense que, de toute façon, c'est pas, on y a, je crois que malheureusement, on y est presque habitué.
Et on vit avec.
On y est presque, ouais. Moi, je. Enfin, voilà. Je ne dis pas que ce n'est pas une info qui ne me choque pas, mais c'est une info qui ne me surprend pas.
Que tu as intégrée.
Ah, mais
et
clairement.
Tu sais que malheureusement,
ah, mais clairement.
Ça peut arriver à tout moment. Monsieur Mehdi Ghezard.
Écoutez, on repart d'une base qui est simple, et on en parle depuis tout à l'heure, c'est l'éducation. Ces gamins-là, ils n'ont pas été éduqués. S'ils arrivent à préparer des attentats terroristes à 18, 19, 20 ans, c'est que ces gamins-là n'ont pas d'éducation, peu importe du pays dans lequel ils habitent, que ce soit en Russie, en Autriche, au Bangladesh, je sais pas, aux États-Unis. Ce sont un manque d'éducation criant. Ces gamins-là, voilà, par exemple, je vais te dire, tu vas me prendre pour un fou, mais... vu ce qu'ils allaient commettre, vu le nombre de personnes qui auraient pu être touchées,
oui, oui.
C'est au minimum perpétuité.
Ça
Après, ils vont te dire quoi ? Non, mais en fait, il n'y a personne qui a été tué, c'est pas grave. Dans 5 ans, il va sortir. Dans 6 ans, il va sortir. Dans 7 ans, il va sortir. Non. Des gens comme ça, tu n'as aucune pitié pour eux.
Ils n'en ont aucune pour eux-mêmes.
C'est, façon, en fait, hein. ils sont mourir, capables donc. D'enlever, de ôter la vie de centaines, de milliers de personnes pour une idéologie qui est complètement contraire à la religion elle-même. Donc, ces personnes-là, font du mal.
Mais malheureusement, c'est dans l'islam qu'ils trouvent cette voilà. idéologie mortifère.
Mais c'est pas l'islam. Dans leur islam.
Si, c'est l'islam dévoyé.
C'est pas dans l'islam. Non. C'est dans leur islam tronqué.
Voilà.
Oui, c'est ça. Oui.
Attention, la différence est très importante. C'est de leur islam tronqué où tu trouves ça.
D'accord. Donc, mais cet islam qui est aussi manipulé par des islamistes.
Par leurs gourous, qui sont
l'État islamique.
Non, les frères musulmans.
Parce qu'ils le font au nom du même Dieu que toi, Mehdi. C'est ça le problème.
Mon Dieu est ton Dieu, Alain.
Oui. Enfin, moi je suis pas croyant, mais si tu veux. Oui.
Voilà, mais on est tous monothéistes, on croit tous au même Dieu.
Non, mais ce que je veux dire, c'est
des prophètes qui sont différents, mais on croit tous au même Dieu.
Ils disent le faire au nom de la même religion que toi, c'est ça qui est.
Je suis d'accord, mais moi ce que je suis en train de te dire, c'est que. Ben, tu dis qu'ils ont la même religion que moi, d'accord ? Ben, moi, le gars de la même religion te dit qu'il ne faut avoir aucune pitié pour ces gens-là. Il ne faut avoir strictement aucune... Tu leur mets perpète.
De toute façon, ils auront perpète.
Mais ils n'auront pas perpète.
Ils auront perpète.
Ils n'auront pas perpète.
Ça dépend dans le pays où tu es.
Mais regarde, ils n'ont tué personne. Ils vont te dire non, c'était un attentat qui a été... Excuse-moi.
Un projet.
Excuse-moi, un attentat qui a été déjoué. Moi, je te le dis.
Mais je t'assure... Salah Abdeslam, il a tué personne.
Regarde, tu sais, on va reprendre le cas d'Algérie. On va reprendre le cas d'Algérie.
Au moment des années de plomb.
Va faire.
Face au front islamique.
Va faire le malin. Avec du terrorisme en Algérie.
Mais dans tous les pays du Maghreb. Hein.
Va faire le malin, va faire ce qu'ils font, va faire 5% de ce qu'ils font en Europe, en Algérie. Je te donne ma parole d'honneur qu'ils prennent perpète en 20 minutes classé. Dossier classé.
Mehdi, je vais pas faire...
Ici, excuse-moi, juste je finis, Bruno, ouais, si ça ne te dérange pas. Ici, ils sont en train de leur trouver à chaque fois des circonstances atténuantes. À chaque fois des circonstances atténuantes où tu as des peines qui sont pas folles pour le degré de dangerosité de ces personnes-là.
Alors attendez, avant qu'on continue la discussion, si vous le permettez, parce que je voudrais qu'on discute avec Jérôme Poirot, qui est pendant un temps à la tête du renseignement français, qui est aujourd'hui consultant terroriste pour BFM TV. Bonjour Jérôme.
Bonjour Olivier.
Bonjour.
C'est Alain. C'est pas grave.
Mais
le Parisien n'est pas là.
Jérôme, ce qui à chaque fois étonne et aussi nous effraie, c'est l'âge de ces je mets l'expression entre guillemets, ces apprentis terroristes.
Ah ben là, on peut pas. Plus que des apprentis, hein. Ils allaient bientôt être des compagnons du djihadisme. Hein. Ils avaient déjà bien progressé dans leur formation, mais ils sont presque vieux. Par rapport à ce qu'on voit chez nous, mais pas que chez nous, depuis maintenant plusieurs années, on a maintenant non pas des adolescents, mais des enfants qui sont impliqués dans des projets terroristes.
Comment ça ?
11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, et qui ont été traduits devant des juges en France.
Qu'est-ce qui leur est arrivé, ces gens-là ?
Alors, ça dépend, quand ils ont moins de 13 ans en France... On est irresponsable pénalement, donc il n'y a aucune peine qui peut être prononcée contre un enfant de moins de 13 ans. Donc ce sont uniquement des mesures éducatives pour des gens qui sont en train d'imaginer des projets terroristes et qui parfois ont commencé à les préparer. Bon, ben, c'est l'état de notre droit, c'est comme ça. Ensuite, quand ils ont plus de 13 ans et jusqu'à 16 ans et même 18 ans, il y a la fameuse excuse de minorité qui fait que les peines prononcées ne peuvent être que la moitié des peines qui sont prévues. Et de 16 à 18 ans, on peut lever cette fameuse excuse de minorité. Ça n'était fait que deux fois chez nous. Donc, en gros, ce sont essentiellement des mesures éducatives. Ça ne veut pas dire que quand ils ont 16, 17 ou 17 ans et qu'ils sont vraiment impliqués dans des projets terroristes, qu'ils ne vont pas les faire un tour en prison.
Comment est-ce qu'ils basculent, Jérôme Poirot ?
Là, je suis un peu en désaccord avec ce que j'entendais tout à l'heure, l'éducation, les réseaux sociaux, etc. Si ces jeunes commencent à s'endoctriner et à avoir des idées qui consistent à préparer des projets terroristes, c'est parce qu'ils sont conditionnés par ça. Ils sont conditionnés pour ça, conditionnés dans leur milieu familial, souvent, conditionnés dans leur milieu religieux, parce que quand on dit la religion dévoyée, etc. Enfin, il y a quand même, en France, comme dans beaucoup de pays d'Europe, des mosquées avec à leur tête des imams qui...
Comme celui de Pessac, là, qui a été interpellé, qui va être expulsé. D'accord.
Ah oui, mais enfin, c'est pas le seul. Hein, ni en
avant
France,
que le Conseil d'État ne casse.
Ni en France, ni en Europe. Non, lui, il va dégager. On est à peu près sûr. Ça va,
ah, ok.
Ce que je veux dire, le conditionnement, c'est un peu comme on a vu avec ces Tchétchènes qui ont décapité Samuel Paty, ou qui s'en sont pris à l'instituteur Dominique Bernard. Ils baignaient déjà là-dedans, quoi, en fait, c'est ça.
Ah ben, bien sûr, oui. Alors, les réseaux sociaux, ça accélère. Bien entendu.
Ça amplifie et accélère.
Puis l'éducation, on ne peut pas dire qu'en France, depuis 1989, on se batte de manière déterminée contre l'islamisme à l'école. Hein. Toutes les enquêtes montrent qu'en gros, il y a la moitié des enseignants qui s'autocensurent. Enseignants, et il y en a aux grandes gueules, d'histoires et autres, donc ils ne peuvent pas enseigner l'histoire des religions, la Shoah... vous avez des élèves qui ne vont pas au sport, des filles, parce que les filles musulmanes ne doivent pas aller au sport, la musique, c'est interdit. Enfin, voilà, donc l'école.
Donc c'est un terreau, ça devient un terreau, quoi, en fait, c'est ça.
Ben oui, oui. Enfin, remontons à 1989, le ministre de l'Éducation nationale, Lionel Jospin, c'est cette fameuse affaire des collégiennes de Creil.
Ah, le voilà.
Qui viennent, évidemment. Ce n'est pas de leur propre initiative, parce qu'elles sont instrumentalisées justement par ces musulmans fondamentalistes, avec un voile, donc c'est gros émoi. Et qu'est-ce que dit le ministre de l'Éducation nationale, Lionel Jospin, qui aura été ensuite Premier ministre et qui a été membre du Conseil constitutionnel, hein, quand même. Il dit « c'est pas bien, mais qu'elles fassent ce qu'elles veulent ». Il a ouvert les vannes.
Donc ça veut dire que les jeunes de Vienne... d'Autriche, il faudra regarder dans quel environnement il baignait aussi.
Bah,
c'est
le même
ça
que le nôtre,
d'accord.
Dans toute l'Europe occidentale. Et encore...
Oui, mais tout le monde ne bascule pas dans le djihadisme et ne fait pas allégeance à Daesh.
Non, mais quand vous êtes paumé, c'est le propre d'une religion. Jérôme. Enfin, quand on est paumé, voilà, c'est très facile d'être conditionné.
Non, il n'y a pas besoin d'être paumé. Non, il y a un travail d'endoctrinement qui est fait par tous ces mouvements, à commencer par les frères musulmans. On peut quand même rendre hommage à l'Autriche, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles elle est une cible. Ouais. C'est le seul pays en Europe qui a interdit, au mois de juillet 2021, les frères musulmans. Ici, tout le monde râle au Parlement européen. Ici, en France, il y a des questions régulièrement des parlementaires au gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les frères musulmans, etc. Bah, si on veut se protéger, il faut prendre des décisions de temps en temps. Bah, commençons par interdire les frères musulmans,
Jérôme
à faire ce que le ministre de l'Intérieur fait là, depuis maintenant quelques années, à expulser tous les imams qui n'ont rien à faire chez nous. Voilà, ça
Jérôme Parot, juste pour information, Jérôme Parot, je pense que vous connaissez déjà cette information. Vous, les frères musulmans sont interdits en Algérie depuis les années 90.
Je parle de l'Europe.
Oui, je sais, non, mais pour vous dire à quel point... Non, j'ai bien compris que l'Autriche, c'est le seul pays en Europe, mais où il y a du décalage par rapport à la dangerosité de certains, c'est que l'Union européenne, lois ou pseudo-lois s'empêche de condamner une mouvance qui ne peut être que dangereuse ou dans un propre pays musulman, elle est interdite.
Moi, je puis vous confirmer, Monsieur Poirot, je puis vous confirmer pour avoir travaillé pour un colloque avec des imams européens. Oui. J'ai fait un colloque sur 3 jours à Paris, c'était juste avant le Covid. Et en fait, l'idée maîtresse qui en est sortie du colloque, c'est la passivité des Occidentaux.
Ben
enfin, ça. Mais c'était en disant, on ne peut pas vous aider. Moi, je me souviens d'une scène qui est Hassan II, au micro d'Anne Sinclair, qui disait, mais arrêtez, vous êtes en train de vous suicider.
Les frères musulmans, c'est vrai, ils sont interdits en Algérie, ils sont interdits en Arabie Saoudite, ils sont interdits en Syrie.
Et ils sont autorisés à Bruxelles, ils sont autorisés... Enfin,
c'est
à en perdre la tête. Je ne sais pas si vous comprenez. On nous accuse, nous autres musulmans, je le dis, hein, parce que je suis musulman, on nous accuse de véhiculer justement cette image de haine par rapport à certains... parmi des brebis galeuses de notre religion qui font justement du mal à notre religion.
Ouais.
On les interdit dans nos propre pays d'origine et tu non, vas
et tu
en
les
Europe,
ici.
Tu les retrouves, ils ont des droits, des devoirs et ils te prennent dehors en te disant je fais ce que je veux, je suis en démocratie, c'est pas comme chez... Mais t'es un terroriste, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Mais le pire du pire, c'est qu'ils nous accusent de les avoir colonisés et alors que maintenant ils nous colonisent. Alors, tout sur un air de victimisation.
Donc il faut plus de fermeté si on ne veut pas laisser ce terreau sur lequel là. Peuvent coloniser, prospérer non, des jeunes comme les jeunes de que l'on a vu en Autriche, quoi, en fait, Jérôme, c'est ça.
Ah ben oui, oui, les causes ont des conséquences. Hein. Les frères musulmans, dans leur mode d'action, revendiqué, hein, c'est leur doctrine officielle, c'est le djihad. Bon, alors, je pense que c'est peut-être
c'est
pas
un projet politique
de commencer à s'interroger s'il ne faut pas interdire des organisations politico-religieuses, quelle que soit leur nature, qui prônent le djihad.
Merci Jérôme Poirot, ancien coordinateur du renseignement en France. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, avant de passer à notre prochain sujet de discussion, parce que là, ça fait beaucoup réagir au 32-16, l'âge de ces jeunes, ce que nous dit Jérôme Poirot. Je voyais aussi Bruno qui voulait réagir, mais on aura le témoignage d'Elvire. Elvire, elle est enseignante. Elle veut dialoguer avec toi, Mehdi, parce qu'elle veut parler du cas d'un élève, elle, qu'elle a eu, qui était cadré, tout ce qu'il fallait, et qui a fait allégeance à un moment aussi. Donc elle veut raconter ce témoignage. À tout de suite avec les grandes gueules.
RMC, 9h midi, les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
On va continuer quelques minutes notre discussion à propos de l'attentat qui a été déjoué à Vienne avec ce qui nous interpellait, c'était l'âge de ces... Alors j'ai dit apprenti terroriste, à quoi Jérôme Poirot, l'ancien coordinateur du renseignement, m'a repris en disant mais non, ils étaient un peu plus qu'apprentis, quoi. C'est vraiment des terroristes. Hein. Voilà, ils avaient basculé. C'est pas des amateurs, ils disaient tiens on va essayer un truc, etc. Ils avaient basculé dans l'idéologie, ils avaient fait allégeance, parce qu'aujourd'hui ils sont peut-être dans un terreau favorable, et c'est de ce terreau dont il faut se débarrasser, nous disait Jérôme Poirot. Et c'est Elvire qui veut témoigner, qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Elvire.
Oui, bonjour.
Pourquoi, vous voulez témoigner à propos de cette affaire de Vienne, de ces jeunes, parce que ça vous touche, expliquez-nous Elvire.
Oui, je voulais un petit peu réagir au propos de Mehdi, en fait, concernant les parents, et vous faire part d'une situation qui peut parfois être beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît, parce que, si vous voulez, moi, il y a une dizaine d'années, enfin, 10-12 ans, je ne pourrais plus vous dire la date exacte, mais moi, j'ai été professeure principale, j'enseigne en banlieue parisienne, dans le 93, d'un élève qui était un élève exemplaire. C'est-à-dire, vous l'aviez en cours, c'était l'élève, le bon élève, d'ailleurs, il était très bon élève, extrêmement sérieux. Et si vous voulez, bon... personne ne pouvait soupçonner qu'il allait basculer d'un jour à l'autre. Et la famille, moi j'ai vu le papa qui était en larmes, oui. Qui était complètement dévasté parce que son fils, ben, certainement par les réseaux sociaux, a fugué. Hein, il est carrément parti. Il est parti en Syrie. Et le papa a tout fait pour le convaincre de rejoindre la frontière turque. C'est lui-même qui est allé le chercher pour le remettre aux autorités françaises. Donc, si vous voulez, c'était un petit peu pour réagir aux propos de Mehdi tout à l'heure, quand les parents... Vous savez, c'est beaucoup plus complexe. Moi, c'est un peu comme...
Mais c'était quel type de... Pour qu'on comprenne bien, avant que Mehdi ne vous réponde, Elvire, c'était quel type de cellule familiale, de contexte pour ce jeune, alors ?
C'était vraiment une cellule... Enfin, les parents avaient 3 enfants. Moi, j'ai d'ailleurs eu les 3. Et ce qui est d'ailleurs marrant, c'est que ce jeune avait une petite sœur qui était beaucoup plus rebelle, d'ailleurs. Puis qui,
non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient de confession ou de culture musulmane, pas du tout.
Oui, à la base, ils étaient de culture musulmane.
D'accord. Voilà.
Mais absolument pas radicalisé. Voilà. D'ailleurs, le papa...
Il n'était pas dans une orthodoxie de leur religion, déjà. Voilà. Il
n'y
avait pas de terreau qui poussait à ça, en plus.
Ah non, d'ailleurs, voilà. Le papa avait alerté la mosquée. Il s'était rendu compte qu'il y avait des mouvances qui étaient extrémistes, qui étaient en train de prendre le contrôle. Et moi, je vous assure, j'ai vu ce papa en larmes. Il a tout fait pour que son fils revienne. Il est même allé le chercher. Il l'a remis aux autorités françaises. C'est-à-dire que le gamin a basculé, si vous voulez, et quand je vous dis, c'était un très bon élève. C'est-à-dire que c'est vraiment... Moi, je me souviens, après les attentats de 2015, vous savez, À un moment, on a
mais attendez, juste pour continuer sur cette sur ce jeune, ils ont réussi à le récupérer finalement ou pas?
Oui, tout à voilà. fait.
Mais oui. Elvire, vous avez réussi à identifier le point de bascule?
Alors le point de bascule, apparemment, ça a été les réseaux sociaux.
Ah oui, comme c'est comme ces jeunes donc du voilà. côté de Vienne aussi, voilà.
Ouais. Ça a été les réseaux sociaux et c'est ce qui a été le déclencheur. Hein, qui, et si vous voulez...
À quel âge il avait...
Il avait 17 ans quand il est parti.
Oui, c'est comme l'âge du complice, quoi. 19 et 17, on est exactement sur les mêmes profils, quoi. C'est,
et
y a un
voilà,
moment...
et si vous voulez, moi, ce qui m'interpelle...
Il trouve un idéal, il trouve une cause mortifère, certes.
Oui,
mais il s'identifie, quoi.
Et vous savez, après 2015, moi, j'avais déjà été un petit peu heurtée parce qu'il y avait eu des articles dans la presse, parfois, où on remettait en cause l'école en disant « Oui, est-ce que les profs ont vraiment bien fait leur boulot ?» Et moi, je vous assure, j'ai été professeure principale de cet élève.
En fait, quand vous entendez ce qui s'est passé à Vienne, vous le comprenez tout à fait, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les jeunes échappent.
Ils échappent. Ouais. Si vous voulez, le problème qui se passe aussi, c'est que vous savez, je pense dans ma génération, moi j'ai une cinquantaine d'années, et puis je pense dans la génération de beaucoup de gens, on avait quoi comme modèle quand on était enfant? On avait nos parents, on avait les professeurs, on avait un peu la télé. Moi, je suis déjà la génération télé. Mais si vous voulez, quand je vois même mes parents qui ont 80 ans, eux, ils avaient quoi comme modèle? Ils avaient leurs parents et puis ils avaient effectivement les profs. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est même en tant qu'enseignant ou en tant que parent, les enfants échappent de plus en plus à notre contrôle.
C'est-à-dire qu'on peut vont trouver d'autres modèles ou d'autres idéaux sur les réseaux sociaux. Alors attendez, Elvire. Parce que vous vouliez dialoguer avec Mehdi.
Pourquoi ils échappent à notre contrôle?
Je pense parce qu'ils ont trop de modèles autres qui peuvent leur apporter une forme d'autorité.
Donc en fait,
si vous voulez, l'autorité, d'ailleurs, on voit bien l'autorité du professeur, elle est malmenée, l'autorité des parents est malmenée. Si vous voulez, moi j'ai également affaire à des parents parfois qui n'arrivent plus à avoir d'autorité sur leur enfant. Alors, on peut parler d'éducation, de tout ce que vous voulez, c'est vrai, mais c'est plus complexe que ça. C'est
mais Elvire, excusez-moi Elvire, je comprends tout ce que vous me dites depuis tout à l'heure. Et je respecte ce que vous me dites depuis à peu près 5 ou 6 minutes. Mais à quel moment on remet en cause l'éducation des parents? Vous me dites que ce n'est pas toujours une question d'éducation. Mais la base d'une société, Elvire, c'est quoi?
Non, mais les parents l'avaient signalé.
La base,
tu vois,
oui, d'accord,
c'est ce que nous
dit Elvire. D'accord.
Mais le père est même allé rechercher, tenter d'aller chercher
Mais gamins, la base quoi, d'une société, la base de quelque société que ce soit, c'est quoi? C'est l'éducation. Donc, on peut pas me dire que c'est pas de la faute que c'est la faute des réseaux sociaux de X ou de Y. Il y a une base qui est universelle, qui est pour tout le monde. Donc, il n'y a aucun souci.
Vous voyez bien que l'éducation est malmenée actuellement.
Je suis d'accord, mais c'est pour ça que je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je vous dis, Elvire, que je rentre je suis d'accord avec votre raisonnement où il peut avoir des paramètres extérieurs et c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Mais il ne faut pas, mais il y en a beaucoup, mais il ne faut pas aussi omettre qu'il y a une structure, qui est la base. Alors, par exemple, pour ce cas-là dont vous nous avez parlé, le papa a fait son rôle, son job de père et il a suivi son fils et c'est tout à son honneur, bravo à lui parce qu'il n'a pas abandonné son fils et vraiment c'est un excellent père. Mais quid de toutes les personnes, qui sont parties là-bas et qui n'ont jamais été suivies ou leur famille justement n'a pas demandé après eux ou peut-être même des familles qui ont, on va dire, aider à ce départ parce qu'il faut pas se voiler la face. Sans mauvais jeu de mots pour le voile de face, mais il y en a certains où c'est normal.
Non. Alors attendez, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Anne et Bruno voulaient réagir. Alors
moi je pense qu'on peut avoir les meilleurs parents du monde et malheureusement avoir des enfants qui connaissent des failles, ça existe,
bien sûr, fragilités. Bien sûr.
Voilà, ça veut pas dire que les parents sont mauvais.
Tout est à l'honneur de ce papa qui a fait nécessaire.
Exactement. Enfin, je pense que depuis tous les temps, il y a des parents qui ont souffert. Alors là, aujourd'hui, on parle d'apprentis djihadistes, mais avant, ça pouvait être l'alcoolisme, la drogue ou n'importe quoi, enfin, que sais-je, ou Jacques Mesrine. Enfin, je prends des cas.
Ou des voyous, des
mais, voilà, exactement, peut... exactement. Les donc parents l'enfant de Jacques peut avoir Mesrine, ses failles. Là où Elvire, mais effectivement, c'est un sujet très important et je pense qu'on n'en parle pas assez. La faille, c'est que le parent ne domine pas la relation de l'enfant ou du jeune ado avec les réseaux sociaux, donc avec un public qu'il ne maîtrise pas. C'est ça aussi le truc.
Ouais, mais ça aussi.
Avant, quand les réseaux sociaux n'existaient pas, l'enfant le maîtrisait plus ou moins. On connaissait ses potes, on connaissait son équipe de foot, je sais pas, on connaissait sa classe, ses copains de classe, etc. Là, il y a toute une frange qu'on ne maîtrise pas. Et je pense qu'effectivement, les parents sont quand même, peuvent être très désarçonnés face à ça. Les parents ne maîtrisent pas les outils de leurs enfants.
Je partage votre avis. Également, je suis d'accord avec toi, Anne, mais il faut faire attention à quelque chose qui est très important. C'est que maintenant, vous êtes dans des mouvements, dans des modes. D'accord ? À un moment, c'était la mode, c'était d'être punk, c'était d'être, tu vois ce que je veux dire ? C'était d'être un peu voilà, rebelle.
Enfin, il y a les marqués sur la
maintenant,
rebellitude.
Il y a certaines catégories de jeunes qui montrent leur rébellion au système en cours par d'autres voies. Quelle qu'elle soit, que ça soit dans la mouvance intégriste, ou que ça soit dans la mouvance extrême gauche, ou que ça soit dans la mouvance extrême droite, d'accord. Mais il y a des degrés. Et je pense, et je suis quelqu'un de profondément vieux dans ma tête, ça veut dire que je pense que la famille, c'est une base de vie qui doit être très importante. Et malheureusement, il y a des parents qui ont complètement démissionné de leur rôle premier, qui est d'avoir, de mettre des règles à leurs enfants. Voilà, il faut se le dire.
Alors, moi, ce
qui
m'interroge,
il ne faut pas avoir honte.
Juste une chose, moi, ce qui m'interroge, c'est que ces enfants sont quand même désespérés parce qu'on peut aller se réfugier dans plein de choses, etc. Marquer sa rebellitude, si je puis dire. Mais là, quand même, adopter une pensée mortifère. Une doctrine mortifère. Moi, c'est vraiment là où ça m'alerte.
Bon, nous penser.
En fait, on peut entendre tout ce qui se dit, mais il y a un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, le terrorisme, celui-là en tout cas, est tellement protéiforme que tu peux pas à un moment donné édicter une règle ou quoi que ce soit. D'ailleurs, Jérôme Poirot, il disait des trucs qui paraissent tout le temps des frères musulmans. Ouais, ok, il a raison, les frères musulmans. Bah,
c'est pour l'idéologie.
Voilà, faudrait fermer le robinet. Sauf que moi, je peux lui amener. Et moi, je l'ai vécu, le procès. Alors là, je revenais à ça, mais en tout cas, ça, c'est du concret. Hein. C'est pas des vents, c'est pas des trucs qu'on a lu dans Voici ou Gala ou Gala. Tu vois, c'est que en fait, là, tu te retrouves avec des profils. C'était des mecs qui n'étaient pas du tout religieux, qui n'en avaient strictement rien à foutre de la religion.
Qui se tapaient des cuites du matin au soir, et des joints et de la coke, et normal.
Abdelhoud, qui est certainement un des instigateurs.
Abdeslam, ça
non, Abdelhoud, c'est Pierre Abdelhoud qui est un des instigateurs. Premier truc qu'il fait quand il sort de Syrie, il arrive en Grèce, il boit une bière. Et les mecs lui disent « Pourquoi tu bois de la bière ?» Ben, je suis en taquia en rigolant, parce qu'il n'en avait rien à foutre en fait. Donc à un moment donné, moi je pense qu'il ne faut pas penser... Tu vois, Thierry Médi, il dit l'éducation. Moi j'entends, vois par exemple, moi je connais le père d'un des terroristes du Bataclan qui a été chercher son gamin, qui a essayé d'aller récupérer son gamin en Syrie. Il y a été. Il était en Turquie, il était en Syrie, il ne l'a pas ramené. Il a fait un bouquin avec le père d'une victime où il explique tout ça. Il dit bah, « Moi, mon gamin, je ne l'ai pas vu venir, ça. Son gamin, il a eu le bac en France.
Ouais, » Souvenez-vous de Maxime Auchard ou des gens comme ça qui ont basculé à un moment.
Moi, je me rappelle de gamines de 15-16 ans qui voulait partir en Syrie pour se marier avec un djihadiste de là-bas, parce que là-bas, elle allait pouvoir vivre comme une reine, parce que c'était un guerrier, et qu'en plus, ça s'achèterait du Vuitton et tout ça, à Raqqa. Raqqa, quand tu vois les photos de Raqqa, tout le monde qui avait cliqué sur Raqqa à l'époque, vous voyez que tout était rasé, Raqqa. Raqqa, c'était pas les Champs-Élysées. Donc, tu vois, moi, j'en reviens toujours au même truc. Moi, de ce que je vois depuis des années sur toutes les histoires de terreau que je suis, malheureusement, bien malgré moi des fois, mais en tout cas, maintenant, ça m'attire, c'est les réseaux sociaux. Tôt ou tard, il y a une interaction des réseaux sociaux. Les parents, ils ont. De toute façon, tu vois bien, tu peux être le meilleur parent du monde, tu peux être derrière ton gamin.
C'est ce qui s'était passé pour Samuel Paty via les réseaux sociaux aussi.
Ouais, tu laisses une heure aller au shot, il va te prendre un truc, il va voir une vidéo. Ah, ça a l'air sympa, ça. Et c'est parti. Et en fait, on a un vrai sujet avec ça, la régulation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde dit c'est impossible la liberté d'expression. Ok, bah autant aller penser.
Non, c'est impossible pour une autre raison, c'est que t'as pas suffisamment de modérateurs et dans toutes les langues et dans tout.
T'as pas assez de flics pour suivre les mecs. T'as pas assez de flics pour faire du renseignement. Enfin, à un moment donné, moi je veux bien.
Non, mais oui.
Dans ce cas-là, on est dans le risque calculé, c'est-à-dire que on peut rien gérer. Bah c'est pas grave s'il y a que 100 morts d'attentats, c'est pas très grave dans une année. Et, hein, c'est moins pire que la route.
Alors attends, je voudrais revenir avec Elvire, parce que Elvire, vous êtes toujours enseignante. Aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
Vous êtes toujours vigilante par rapport justement à cet endoctrinement des ados.
Bien sûr, je suis très vigilante, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est impossible. Enfin, impossible. Non, on a des... Bon, c'est vrai qu'on fait très attention.
Surtout depuis ce qui s'est passé avec Samuel Paty et Dominique Bernard.
Quand un élève se referme, quand un... Bon, bien sûr qu'on est extrêmement vigilant. Mais il y a des points de bascule qu'on ne peut pas, effectivement, détecter. Et pour en revenir aux réseaux sociaux, ben, vous savez, nous, on est, en tant qu'enseignants, extrêmement démunis par rapport à ça également. On voit bien, c'est un autre sujet, peut-être qu'on en parlera une autre fois, mais... je sais que je vous ai écouté l'autre jour en parlant de l'intelligence artificielle, c'était très intéressant. Mais par exemple, effectivement, nous maintenant, nous ça aussi, on est notre autorité. Même comment maintenant faire travailler des enfants qui effectivement ne prennent plus la peine de réfléchir, vont effectivement chercher les réponses partout où ils peuvent les trouver, même si c'est vrai, même si c'est faux, ça c'est même plus ça le sujet. Mais... Si vous voulez, on a un contrôle en tant qu'enseignant qui nous échappe. Et moi, je le vois, parce que je suis enseignante depuis longtemps.
Toujours en Seine-Saint-Denis ?
Oui, oui.
D'accord. Parce que Elvire, vous dites on reste vigilant, mais dans ces cas-là, parce que ce qui est intéressant, c'est que l'un des deux jeunes du côté de Vienne, il avait changé son apparence, quitté sa petite amie, et il avait basculé sur autre chose. Et il avait commencé à être signalé.
Il
y avait des signes extérieurs. Voilà, ce qu'on appelle les signaux faibles et les signaux forts. Et puis là, voyait que de signaux faibles, on était en train de monter en intensité, plus ensuite, il y a eu... les services de renseignement qui ont réussi à le serrer via les réseaux sociaux. Mais ces signaux, dans ces cas-là, qui est votre référent ? À qui vous pouvez en parler en disant « Attention, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer ».
C'est bien là le problème. Alors, on alerte, effectivement, généralement, on alerte le chef d'établissement doit prendre le relais. Mais là, c'est toujours pareil. Hein, c'est qui vous avez comme interlocuteur en face. C'est-à-dire, soit vous avez quelqu'un qui, effectivement, va prendre au sérieux ce que vous allez dire, va minimiser, et ça, on n'en est pas responsable, si vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que le point de bascule peut être extrêmement rapide. Et on peut ne pas le... Effectivement, se dire... Enfin, moi, en parlant, pour en revenir à cet élève, c'est le dernier... que j'aurais pu soupçonner.
Ah, oui.
Ah mais vraiment, ah oui. Et réellement. Mais le dernier, si vous voulez...
Mais pour lui, Daesh et le terrorisme, ça devenait un projet, quoi, un projet de vie, quoi, en fait.
Oui, mais c'est-à-dire que... Enfin, souvent, on s'imagine que ce sont les grandes gueules, vous savez, les grandes gueules, qui vont tout de suite... Mais c'est pas eux, en fait.
Ceux qui parlent le plus fort ou qui en font le plus.
C'est pas vrai. En fait, c'est les eaux dormantes, si vous voulez. Moi, pour moi, cet élève, c'était un peu ça. C'était un élève.
Et c'était un solitaire, Elvire ?
Alors, non. Il était très studieux. Très studieux, voilà, c'est-à-dire c'était l'élève, moi je l'ai eu au collège et au lycée parce que je fais partie d'un ensemble scolaire où il y a un collège et lycée, il était extrêmement studieux, très bon élève, quand vous le recadriez en lui disant, il était très soumis, c'est ça d'ailleurs, et c'est là le truc, c'est-à-dire que cet élève qui était extrêmement obéissant, soumis, mais bon, s'ils sont soumis à vous, ils peuvent être soumis à d'autres. Voilà ce que je veux. Et c'est vrai que c'est pas... si vous voulez, sa petite sœur que j'ai eue également, qui était très rebelle, très... qui d'ailleurs était parfois insolente, pas méchamment, hein, mais qui était beaucoup plus... elle, effectivement, c'est pas elle qui se serait fait endoctriner. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est très dur parce que...
Et il a été récupéré depuis, ce jeune ? Vous avez eu des nouvelles ou pas, alors ?
Alors, bon, j'ai eu des nouvelles un tout petit peu il y a quelques années. Je crois qu'il était placé sous bracelet électronique et qu'il avait repris des études et qu'il avait, effectivement, il avait manifesté des regrets. Hein. Mais on ne saura jamais, par contre, ce qu'il a été faire là-bas. Ça, c'est clair. Ni ce à quoi il a assisté, bien sûr.
Ouais.
Et malheureusement, s'il a été jusqu'au plus près du truc, ce qu'il a vu ou assisté, ou même peut-être ce qu'il a fait, c'était territoires en guerre avec la barbarie.
C'est ce que me disait le père. Hein. Il me disait qu'est-ce qu'il a pu voir ou qu'est-ce qu'il a pu faire. Donc, si vous voulez, mais je sais que c'est. Voilà, on est dans une situation compliquée parce que je crois que c'est au niveau...
Et qui n'est pas terminé parce qu'en fait, on a eu malheureusement des actes comme celui de Samuel Paty, de Dominique Bernard, mais de ce que l'on voit encore avec la puissance des réseaux sociaux, ce qui s'est passé à l'extérieur, on voit que même si on en a terminé, on pensait en avoir terminé physiquement avec l'armée de l'État islamique et leur implantation entre la Syrie et l'Irak, malheureusement, ça continue via les réseaux sociaux.
Bien sûr.
C'est, voilà, ils sont toujours actifs, ils ont toujours leur propagande, ils essaient toujours d'enrôler, parce que
ils ont toujours
des esprits qui peuvent rallier la cause.
Comme ils n'ont pas de moyens aujourd'hui, ils s'attaquent à des...
Non, mais c'est ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ça, Elvire. C'est que malheureusement, après tout ce qui s'est passé, de nous dire encore que vous êtes démunis, c'est-à-dire que vous êtes là, en fait, de manière... c'est de votre propre responsabilité. Vous êtes là, essayez de surveiller, essayez de regarder, mais quand ensuite vous cherchez des référents, malheureusement, vous trouvez un peu seul.
Excusez-moi, Elvire. Finissez, je vous en prie. Finissez.
Non, je voulais dire ça. Hein. C'est-à-dire qu'on se retrouve très seul. Et effectivement, en plus, on sait bien. Les élèves, le nombre de fois où je suis obligée de. Enfin, parce qu'ils me sortent des énormités, qu'ils regardent sur TikTok, qu'ils regardent. Ah, mais oui, sur TikTok, on m'a dit si.
Pourquoi justement ne pas prendre le problème à bras le corps? Et comme l'a si bien dit Bruno, d'aller sur ces réseaux sociaux-là et de faire des lois qui puissent empêcher d'accéder à ces contenus-là.
C'est compliqué.
Pourquoi? Si on ne fait rien, on achète. Ils ne sont pas en France, on fait une loi. Je ne sais pas. On est assez bon pour faire des lois pour acheter le même chargeur de téléphone universel.
Attendez.
S'il vous plaît, temps mort.
T'as raison, c'est fini.
On se retrouve tous pour faire des lois pour acheter un chargeur pour qu'il soit le même dans le monde entier, mais on n'est pas assez bon pour faire une loi pour éradiquer le terrorisme par Internet.
Merci Elvire, merci pour votre témoignage.
Posez-vous les bonnes questions.
Merci de ce témoignage, Elvire, merci beaucoup. Intéressant et qui doit nous faire une fois de plus réfléchir. Merci Elvire. Allez, suite des GG dans 3 minutes.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.